Et il est 19h21.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Il y a 20 ans, ou un peu plus, en 1995, la production de miel était de 32 000 tonnes. Cette année, on tournera entre 7 et 9 000 tonnes. C'est moitié moins que l'an dernier. C'est la pire année de l'apiculture, disent les anciens. Mon cousin Quentin, figurez-vous, qui est apiculteur dans le Limousin, m'a dit cet après-midi que, en moyenne, il faisait 6 kilos de miel par ruche cette année contre 15 l'an dernier. Voilà ce que ça veut dire. La cause, c'est le ciel, printemps et été pourri, épisode de gel. Il suffit de ça pour que les abeilles se retrouvent fort dépourvues, faute de floraison. Les gelées tardives et les pluies font que vous ne trouverez pas de miel d'acacia, ou si peu de miel de thym, de romarin, de bruyère. Une année particulièrement mauvaise, donc qui fait suite à deux mauvaises années. Le changement climatique qui renfolle la météo, les apiculteurs le vivent chaque année. La conséquence, si vous regardez dans votre magasin, c'est que vous aurez donc du mal à trouver du miel de chez nous. Il viendra d'autres pays en plus grande quantité. Les conséquences seront aussi là, bien sûr, sur les prix. Un débat réchauffement climatique qui vient s'ajouter à celui sur les pesticides qui a démarré il y a plusieurs mois et qui n'est pas refermé. Le miel français est-il en danger? C'est le téléphone sonne ce soir et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Le premier, c'est vous, Pierre. Soyez le bienvenu. Bonsoir. Bonsoir, je vous entends loin, Pierre, allez-y.
Allô, vous m'entendez?
Ah, ben, je vous entends mieux, allez-y.
Voilà, ben, écoutez, bonsoir et félicitations pour votre émission qui me réconcilie avec l'humanité en général quand je l'écoute.
allez-y, Pierre.
Voilà, je suis sectionneur et producteur de conditionneur de miel sur les pentes du Mont Ventoux, dans le Vaucluse. Et quand j'ai entendu le sujet de votre émission, je me suis dit qu'il fallait aussi signaler que derrière la pénurie qui est liée aux conditions climatiques exceptionnelles de cette année 21, il ne faut pas oublier qu'il y a une menace derrière le miel et derrière cette pénurie, c'est la tentative par certains producteurs de sirop de glucose aromatisé au miel de vouloir inscrire dans notre codex alimentaire le mot miel attaché au mot synthétique ou au mot artificiel. Parce qu'une pénurie de miel, ça va entraîner, la France importe déjà 70% de sa consommation, ça va augmenter par conséquent, puisqu'il y a une pénurie, mais c'est aussi, cette pénurie, c'est la porte ouverte à des abus et une sorte de hold-up qui peut se passer sur le miel par des gens qui ont totalement intérêt à gagner beaucoup d'argent parce que la différence, c'est du simple au décuple contre le prix.
Et profiter donc, on vous a entendu, Pierre, de cette pénurie pour placer aussi ce genre de produits sur le marché. Merci beaucoup de cette introduction pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Franck Alétru est avec nous. Bonsoir, monsieur Alétru.
Oui, bonsoir.
Vous êtes président du syndicat national d'apiculture, 23 000 adhérents autour de vous. Axel de Courty est avec nous également. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Ah, formidable. Vous êtes directeur de l'Institut national de l'abeille et de la pollinisation, responsable de l'unité de production des abeilles dans l'environnement. Je signale que vous avez écrit « Les abeilles des ouvrières agricoles à protéger » aux éditions France Agricole. Et pour être tout à fait complète comme ça, on le saura, au mois de décembre sort une BD scientifique qui s'appelle « Le miel et ses abeilles » avec l'illustratrice Eufolie. Voilà, on répétera tout ça dans un tout petit instant. L'un comme l'autre, Franck Alétru peut-être, est-ce qu'il y a un risque, effectivement, pour cause de pénurie, de voir arriver sur le marché ce que Pierre appelle du sirop de glucose et autres sirops qu'on appelle abusivement du miel?
Bah, toutes les façons, c'est exact que systématiquement, lorsqu'il y a une niche commerciale qui se libère, il y a toujours des opportunistes malhonnêtes qui essayent d'en profiter. La problématique, elle se situe là, cette fois-ci, à un très haut niveau, puisque cette demande de modification d'appellation du miel, de créer une nouvelle appellation, miel artificiel, c'est réellement une action qui se mène au niveau de Bruxelles. Mmh. Donc on est extrêmement inquiet, Et je peux vous garantir que l'ensemble des syndicats apicoles européens sont arc-boutés pour éviter cette autorisation, éviter cette appellation qui trompera systématiquement les consommateurs et qui nous éloigne totalement de ce produit absolument naturel et merveilleux qu'est le miel.
Et alors, est-ce que vous craignez justement, c'est à vous que j'ai posé la question, Axel de Courty, qu'il y ait des attaques de ce genre, précisément parce que, soyons très très clairs, qu'est-ce qui va se passer dans les magasins pour cette année avec le miel français? Quand je disais tout à l'heure en introduction qu'il y a des choses qu'on ne verra pas, concrètement ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on ne va pas voir réellement? Est-ce que pour le consommateur que nous sommes, ce sera très clair, il y a un vrai problème cette année?
Oui, alors il y a quand même la notion de stock. Hein, donc les apiculteurs, en 2020, c'était une très bonne année avec 31 000 tonnes produits. Donc on a un peu de stock. Par contre, c'est vrai que quand on interviewe les apiculteurs là, via les associations de développement régional qui nous font remonter les inquiétudes des apiculteurs, on confirme que c'est probablement la pire année de leur vie d'apiculteur. Donc ça va creuser la balance commerciale. Hein. C'est vrai qu'on a déjà des flux de miel d'import assez élevés, puisqu'on a 32 000 à 35 000 tonnes par an qui vient de l'étranger, qui correspond, quand les années sont bonnes, à 50% de notre consommation. Mmh. Donc voilà, en 2020, en gros, on avait 50% du miel qu'on consommait qui était produit sur notre territoire. Donc vous voyez bien que forcément, même s'il y aura un effet retard, à un moment ou un autre, on consommera sans doute plus de miel de l'étranger.
Miel de l'étranger, d'ailleurs, c'est du miel qui vient d'où? Parce que les aléas météo sont des choses que, hélas, on partage un peu tous en Europe. Là, le miel étranger vient d'où, en fait? Qui produit et qui nous en amène autant?
La plupart des pays qui en importent, c'est l'Ukraine, l'Espagne, l'Allemagne, la Chine. On parle souvent du miel chinois, mais en fait, le miel chinois, maintenant, en France, c'est 6% seulement des importations. Enfin, c'était le cas en 2019. Donc voilà, les grandes plates tournantes de l'Europe, c'est l'Ukraine et l'Espagne.
Et je suis très intriguée par ce miel chinois dont vous nous parlez. Franck Alétru, une année comme celle-là, jusqu'à quel point ça veut dire aussi que certaines exploitations peuvent être amenées à disparaître?
Oui, tout à fait. Il y a des exploitations jeunes, qui vous imaginez, celles qui démarrent dans de telles périodes, évidemment, se trouvent avec des stocks nuls, aucune marchandise à mettre en marché. Inévitablement, ces structures-là sont en difficulté. C'est la raison pour laquelle notre syndicat est très très vite, dès le mois de juillet, interpellé le ministre de l'Agriculture, de façon à ce que soit prise en considération la notion de calamité agricole, calamité apicole, en quelque sorte, pour venir en aide au plus vite à ces apiculteurs qui se trouvaient en déficit total de production.
Je disais un papier en préparant cette émission, Franck Alétru, qui parlait de Corse et qui parlait de ce paradoxe qui disait qu'il y avait de plus en plus de gens qui s'installaient, de plus en plus d'apiculteurs, alors de plus ou moins grande taille, mais aussi de moins en moins de miel. Est-ce que c'est une réalité, ça? Il y a de plus en plus d'apiculteurs? Et alors, pardon de le dire comme ça, vous me corrigerez si je me trompe. Est-ce qu'il y a aussi une espèce de forme de mode, en fait, où on installe des ruches un peu partout ou pas du tout?
Oui, tout à fait. Il y a effectivement un engouement, une passion pour essayer de c'est un geste, je dirais, environnemental au départ de la part de beaucoup de nouveaux, les néo-apiculteurs. Mais il y a aussi des jeunes apiculteurs ou de moins jeunes apiculteurs, des personnes qui changent de vie et qui décident de s'installer et qui, compte tenu, je dirais, du risque qu'il y a, compte tenu du dérèglement climatique, l'apiculture, c'est pas mathématique. Donc, ils sont extrêmement prudents au niveau de leur installation. C'est-à-dire que aujourd'hui, on va pas s'installer du jour au lendemain avec 500 ruches. Les installations sont atomisées en quelque sorte, d'où ce sentiment d'avoir effectivement un égrenage de l'installation avec un poudrage en quelque sorte des ruches sur le territoire, ce qui est très bien pour la pollinisation puisqu'on a un maillage sur l'ensemble du territoire. Donc on a deux cas de figure. On a les apiculteurs, on va dire, passionnés de loisirs, les petits producteurs qui eux vont effectivement se voir leur nombre augmenter. Il y a une passion, il y a un sentiment de, je dirais, de devoir vis-à-vis de l'environnement pour certains. Et puis de l'autre côté, il y a des personnes qui décident de changer de vie et qui vont prudemment et qui ont raison. La preuve en est cette année.
Je peux vous poser une question extrêmement naïve, Franck Alétru. Qu'est-ce qui se passe quand la floraison n'est pas là et que les abeilles ne peuvent pas faire leur travail? Est-ce qu'elles meurent en fait?
Alors, non, heureusement, elles ne meurent pas. Si, disons que si elles n'ont plus aucune réserve dans la ruche et qu'elles ne trouvent rien dans les fleurs, effectivement, elles vont mourir de faim. Et c'est là qu'intervient le rôle de l'apiculteur, c'est de tout mettre en œuvre pour éviter cette famine.
C'est ça. Est-ce qu'on peut mettre une ruche sous perfusion, pardon de le dire comme ça, le terme évidemment pas impropre, mais est-ce qu'on peut mettre une ruche sous perfusion quand une saison est si mauvaise?
Oui, tout à fait, parce que ne pas le faire, d'ailleurs, relèverait du bien-être animal, hein, ça serait une mauvaise pratique. Mmh. Donc il faut absolument leur apporter un sirop sucré qui leur permet de tenir jusqu'à la floraison prochaine.
Dominique est avec nous. Bonsoir Dominique.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Alors j'avais une question et puis une information. Demain au cinéma Le Trianon à Romainville, petite publicité, on projette un documentaire qui s'appelle « Qu'est-il arrivé aux abeilles ?» sur la situation des abeilles et des apiculteurs mayas au Mexique. Mmh. Et c'est suivi d'une rencontre avec des apiculteurs de Romainville, donc ruche urbaine. Voilà.
Ok, bon, vous êtes tous ça c'est fait. Il y avait une question derrière, Dominique.
Oui, la question derrière, c'était de savoir si quand même on pouvait sentir qu'il y avait un phénomène plus global de disparition des abeilles dû à l'utilisation des pesticides et des herbicides par les agriculteurs.
Merci Dominique, je vous pose la question à tous les deux. Axel de Courty d'abord, directeur de l'Institut National de l'Abeille et de la Pollinisation.
Oui, alors pour répondre à cette question, il faut distinguer l'abeille domestique, hein, élevée par les apiculteurs, mmh. et les abeilles sauvages. Donc l'abeille domestique a des problèmes de surmortalité. Hein, donc il y a une enquête qui est faite depuis des années chez les apiculteurs français. Et on sait que chaque hiver, un apiculteur va perdre de 15% jusqu'à plus de 30% de ses colonies en moyenne. Mmh. Donc ça, voilà, c'est le cas de surmortalité. Et vous avez les abeilles sauvages qui, elles, bah, comme malheureusement beaucoup de communautés sauvages, connaissent une érosion de la biodiversité. Le nombre d'espèces s'est réduit. Par exemple, au Royaume-Uni, entre les 1980 et 2013, on a enregistré moins 40% d'espèces d'abeilles sur ce territoire. Et donc, vous avez une érosion de la biodiversité chez les abeilles aussi.
Franck Alétru, là-dessus, quelle est la part de perte, si j'ose dire, qui est attribuée aux pesticides et à tous ces problèmes-là, celle qui est, j'allais dire, hélas naturelle et qui est liée pour le coup à la météo et aussi, on va y venir, au réchauffement climatique?
Alors, sur cette année, si on parle de l'année 2021, la part l'impact des pesticides au niveau de la perte de production, en période de production, n'a pas été le facteur majeur. On s'est trouvé réellement devant une situation avec des floraisons, il y avait des fleurs, mais le climat n'était pas propice. Car pour qu'une fleur sécrète du nectar, il lui faut de l'humidité au pied, au sol, et de la chaleur, et l'absence de vent séchant. Et s'il y a un de ces paramètres qui n'est pas là, il n'y a pas de miellé. Donc il y a des fleurs, mais pas du tout de nectar. Pour en revenir aux pesticides, là, on se trouve effectivement devant bientôt une date très importante. Mmh. C'est le plan pollinisateur national, c'est-à-dire que c'est à la mention abeille. C'est une loi très importante qui va être négociée, qui est actuellement sur le bureau de Matignon, qui va amener à une plus grande protection des abeilles pour éviter ces grandes mortalités que l'on connaît depuis 25 ans qui sont totalement dues en majorité. On a bien sûr d'autres paramètres, mais la grande majorité de ces effondrements étaient dus aux pesticides. Eh bien, c'est un traitement, une pulvérisation hors de la présence des pollinisateurs sur les fleurs. C'est-à-dire de traiter à la tombée de la nuit. Mmh. Car on sait qu'ils ne sont pas en train de butiner. Et de ce fait, on ne les pulvérise pas, on ne les expose pas de façon mortelle aux pesticides. Donc ça, c'est un très gros dossier sur lequel la filière se bat, car on pense qu'on aura un grand progrès déjà au niveau de la réduction des pertes. Il y a encore d'autres sujets sur lesquels on doit travailler pour réduire les pertes, mais celui-ci est majeur.
Et alors, pas seulement d'ailleurs sur le bureau de Matignon, si je ne m'abuse, c'est aussi sur le bureau de la Commission européenne, non, monsieur Alétru, j'ai sous les yeux par exemple plus de millions de signatures pour sauver les abeilles, qui a été une initiative citoyenne européenne. Est-ce que là-dessus, vous avez le sentiment que en Europe, en tout cas entre apiculteurs et aussi finalement les mangeurs de miel que nous sommes tous en Europe sont sur la même ligne? Est-ce qu'il y a un travail à faire de ce point de vue-là? Est-ce qu'il y a une avancée à faire de ce point de vue-là? bien. Est-ce qu'il y a eu des avancées, pardon ?
Alors, il y a effectivement des avancées, et en ma position de président des apiculteurs professionnels européens, je suis effectivement bien informé de l'état d'esprit de tous nos collègues européens qui sont sur la même ligne, c'est-à-dire qu'il y a un effort qui doit être fait dans tous les États membres pour préserver tous les pollinisateurs, pas évidemment que les abeilles, mais tous les pollinisateurs. Et là, on sait exactement où les progrès doivent être faits en matière d'évaluation des pesticides, c'est-à-dire qu'on n'autorise pas avec autant de facilité qu'il en était le cas dans les années passées. Donc là, toute l'apiculture européenne, renforcée par les consommateurs, par les protecteurs de l'environnement, par des structures telles que la LPO aussi, qui peut être touchée en France comme en Europe. C'est-à-dire qu'on a réellement un lien. On se rend compte que l'abeille est témoin, c'est l'indicateur majeur d'un effondrement de la biodiversité, d'un déséquilibre majeur. Et si les abeilles qui sont nos mères venaient à disparaître, c'est l'humanité qui va disparaître nécessairement et progressivement. Donc là, on a réellement, ce million de signatures est évocateur. Il s'est obtenu dans un temps record. Et aujourd'hui, rares sont les politiques qui, en face de nous, osent botter en touche. Par contre, les décisions tardent. Elles prennent trop de temps. Et c'est là-dessus que tous les citoyens doivent être derrière les apiculteurs, car tous les citoyens sont un peu apiculteurs.
Alors justement, on est un peu dans le même esprit avec la question de Jackie. Bonsoir Jackie.
Oui, bonsoir Fabienne, bonsoir France Inter. Je ne peux que souscrire à ce qui vient d'être dit. C'était un peu l'objet de ma question, donc je ne vais pas répéter. Par rapport à ce qui vient d'être dit, il est inconcevable que l'humanité ne se mette pas en marche, en ordre de marche, pour sauvegarder les insectes qui ont perdu 60% de leur population, qui sont les pollinisateurs et les nourriciers de la planète et des hommes. Et je ne comprends pas qu'on ne mette pas autant d'argent sur la protection de cette biodiversité alors qu'on en met sur la sauvegarde des pyramides, sur la sauvegarde du Sacré-Cœur, de la Tour Eiffel, etc. Il s'agit d'une aberration de l'humanité qui va se répercuter sur les générations futures, sur nos enfants, sur ceux qu'on dit qu'on aime. Mmh. Et en vérité, aujourd'hui, on ne fait rien, et la finance, et on le voit encore avec le pétrole, etc., et la finance, qui continue dans le même modèle, et qui ne comprend pas que la biodiversité est la pyramide de notre société.
Jackie, merci beaucoup. J'imagine qu'il n'y a rien à ajouter au discours de Jackie, Franck Alétru, non ? Pour ce qui vous concerne, en tout cas.
C'est merveilleux de savoir qu'il y a ce type de schéma de pensée, de propos qui peuvent être tenus à l'antenne. C'est vraiment excellent. Ce que je voulais aussi rajouter, malgré tout, c'est que, vous voyez, à Marseille, il y a eu cette grande conférence de l'UICN où le président Macron s'est targué que la France soit un pays exemplaire en matière de protection de l'environnement et tout particulièrement vis-à-vis de l'usage des pesticides. Seulement, les propos sont d'une couleur et les actions sont totalement inverses. On l'a vu il y a quelques mois, a été réautorisé des néonicotinoïdes sur les betteraves sucrières. On tarde toujours, je vous le disais tout à l'heure, à mettre en œuvre cette mesure de protection des abeilles par les traitements en fin de journée, en période nocturne. On sait que ça marche. C'est déjà testé dans des tas de départements. On sait que ça fonctionne, mais on ne prend pas les décisions. C'est ça. Et les discours sont là, mais les actes ne sont pas là. Et il va falloir effectivement qu'à un moment donné, on se fâche les uns et les autres pour exiger des résultats. C'est trop important pour les générations futures et même pour nous aujourd'hui.
Axel de Courty, pour revenir, y compris à la production de cette année, on a une question de Didier de Nogent-sur-Marne qui vous demande depuis combien de temps on sent les effets réellement du réchauffement climatique dans la production de miel, parce qu'on imagine que ça date pas de cette saison-là.
Oui, c'est assez difficile de répondre, mais c'est vrai que les apiculteurs témoignent de différents bouleversements. Alors, faut distinguer les pas de temps, en fait. Hein, donc voilà. Donc il y a le pas de temps qu'on connaît aujourd'hui, où les floraisons sont décalées, en fait. Hein, les floraisons vont être plus tardives ou plus précoces. Et puis les floraisons sont fragilisées, comme cette année avec le gel ou la pluie ou le vent. Et donc en fait, la plante, dès qu'elle est stressée, ben elle va réduire la période de floraison. Donc les apiculteurs témoignent de ça avec des floraisons, des miellets qui sont de plus en plus courtes. Et malheureusement, c'est pas parce que vous voyez de la fleur qu'il y a du nectar. C'est-à-dire que les aléas climatiques, que ce soit le gel, la pluie ou le vent, vont aussi affecter la quantité de nectar. Donc voilà, donc c'est un patent qui est observable par nous tous. Par contre, il y a un patent qui est plus délicat à mesurer par nous, c'est le changement de la communauté des végétaux. C'est-à-dire qu'on sait très bien que dans les zones protégées ou les zones naturelles, la flore est en train de changer et donc les plantes vont évoluer dans le temps. Et,
mais échanger, ça veut dire
système, c'est-à-dire que les agriculteurs aussi changent leur culture pour s'adapter au climat. Donc toute la flore, tout l'environnement de l'abeille va changer.
Alors justement, ça nous amène à cette autre question sur franceinter.fr d'un auditeur qui se demande, puisqu'on connaît les caprices de la météo désormais, y a-t-il un moyen de mieux se prémunir? Y a-t-il un moyen d'anticiper, non seulement à votre niveau évidemment dans les ruches, mais pas seulement, en fait, également sur les fleurs qui sont autour? Est-ce qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus, Franck Alétru ou pas?
Bah écoutez, il y a quelques semaines, nous étions en réunion, d'ailleurs avec Axel de Courtic, que je salue au passage. Nous étions en réunion sur un groupe de travail par rapport aux varennes de l'eau et du dérèglement du climat. Parce qu'on dit toujours de façon un peu raccourcie réchauffement climatique. Mais sur 2021, ça n'a pas du tout été une notion de réchauffement. On peut pas dire que ce soit l'année de la chaleur. Hein. C'était réellement...
Non mais c'est l'année du dérèglement.
Du dérèglement, fait, exactement. Mmh. C'est exactement ça. Et alors le dérèglement, il peut être tantôt vers un excès de chaleur, tantôt vers du froid, des périodes de gel qui ne doivent pas exister à cette période-là. Donc il est extrêmement difficile de définir de façon préalable quels seront les caprices de la météo. Donc quelles sont les solutions? Eh bien effectivement, c'est de trouver des productions qui de floraison, des périodes de floraison qui peuvent être plus longue, de façon à pouvoir profiter de périodes favorables, alors que lorsque les plantes ont des floraisons extrêmement courtes, si à ce moment-là les conditions sont non favorables, eh bien effectivement, là, il y a une catastrophe.
Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait modifier, pardonnez-moi Franck Alétru, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait modifier un certain nombre de choses dans les fleurs pour que, effectivement, les périodes de floraison soient plus longues? Tout à l'heure, monsieur de Courtis parlait de fleurs qui sont différentes aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait?
Alors, juste avant que donner la parole à Axel, c'est d'augmenter la variété, le choix, la diversité. C'est la diversité, surtout pas commencer à manipuler les plantes sauvages, surtout pas.
Mais est-ce qu'elles vont plus loin, les abeilles désormais, faute de pouvoir d'avoir des fleurs à porter comme ça a pu être le cas pendant longtemps? Est-ce qu'elles vont plus loin? Est-ce que ça aussi ça a changé? Est-ce que il y a une géographie qui est différente? Axel de Courtis peut-être.
Voilà. Oui.
Monsieur oui, les abeilles, effectivement, cette capacité de s'adapter. Hein. On sait très bien que dans le désert de l'Arizona, les abeilles domestiques, elles vont faire jusqu'à 12 km pour aller chercher du pollen.
Ouais.
Donc, elles sont capables de s'adapter. En fait, une colonie d'abeilles, c'est, vous imaginez, un animal qui renaît chaque année en janvier. Et cet animal doit être mature en avril et en pleine force de l'âge en mai-juin. Donc en fait, c'est une colonie à une croissance accélérée. Et cette croissance accélérée est permise grâce au nectar et au pollen des fleurs. Et si ce nectar et pollen des fleurs n'est pas présent, la colonie a une grande capacité d'adaptation. Elle va retarder sa croissance, et puis elle va se réorganiser. C'est à l'intérieur de la ruche, il y a une réorganisation. Par exemple, elle est capable de stopper complètement l'élevage des larves. Puisque c'est le soin des larves, c'est vraiment la tâche la plus consommatrice d'énergie. Donc la colonie va s'adapter, elle va arrêter de produire des nouvelles bouches à nourrir. C'est une adaptation qui est plutôt intelligente.
Ouais.
Par contre, ça embête évidemment les apiculteurs parce que moins de bouches à nourrir, c'est moins de force de travail pour faire du miel.
Moins de travailleuses. Mais est-ce que ça veut dire, par exemple, on dit cette année que il y a moins de miel d'acacia parce que à cause du gel, à cause des intempéries. Donc, mais est-ce qu'on se dit dans ces cas-là que, pardon de la naïveté de ma question, mais que des abeilles qui ont l'habitude d'être là sur un rayon de 3, 4, 5 km, je sais pas, vont aller sur un rayon de 12 km, sont capables dans l'instant de s'adapter à ça, quitte à revenir sur un autre kilométrage la saison suivante? Est-ce qu'on peut imaginer, est-ce que c'est comme ça que ça marche aussi chez elles, en fait?
Franck Alétru en parlait tout à l'heure. En fait, il faut distinguer les fonctions vitales, les besoins alimentaires pour assurer les fonctions vitales de la colonie d'abeilles. Donc ça, c'est un certain besoin alimentaire. Et ces besoins alimentaires, effectivement, l'abeille est capable d'aller très très loin pour assurer ses fonctions vitales. Et puis, il y a les besoins de l'apiculteur qui est finalement le surplus de nectar qui est stocké dans la ruche qui va produire le miel. Donc en fait, vous pouvez très bien avoir assez de ressources pour assurer les fonctions vitales, mais pas assez pour assurer la production de miel. Et les pires années, comme en 2021, vous n'avez même pas assez de ressources pour assurer les fonctions vitales, d'où l'intervention de l'apiculteur avec un complément alimentaire pour éviter que ces abeilles meurent.
Il y a trois Philippe au standard, donc il ne va pas falloir se tromper. Le Philippe qui est arrivé le premier nous appelle des Cœur-Dreville, est-ce que j'ai écorché le nom de votre ville, Philippe? Ah ben, bravo, ben, écoutez, c'était moins une. On vous écoute, allez-y.
Oui, bonsoir tout le monde. Je vous téléphone parce qu'effectivement, en France, apparemment, le tonnage a fortement diminué, mais comment font nos pays voisins européens pour maintenir un tonnage et nous fournir du miel? Est-ce que c'est un climat qui est différent? Est-ce que c'est une qualité de miel différente? Voilà.
Merci pour votre question. Franck Alétru, indépendamment du fait que nous avons vraiment joué de malchance sur les aléas climatiques cette année, est-ce qu'il y a quelque chose chez nos voisins qui fait que leur production baisse moins que la nôtre, ou est-ce qu'on est tous confrontés au même problème?
Alors, cette année, effectivement, l'Europe, dans sa quasi-totalité, je prendrai l'Italie, qui est aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais qui est un pays très producteur. Cette année, ils ont une récolte catastrophique. Une partie de l'Espagne a aussi une récolte extrêmement basse. D'ailleurs, les prix ont énormément monté. Sur l'Europe centrale, notamment la Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie, les récoltes sont en acacia quasiment nulles aussi, tilleul très faible. Il y a eu vraiment un gros problème de dérèglement climatique sur l'ensemble de l'Europe de l'Ouest et je dirais même une partie de l'Europe centrale. Et donc c'est une situation qui est généralisée. Donc les données d'importation qu'on connaît, ce sont les données des années passées.
Mais ce sont les années stock, on va dire.
Voilà, les années passées qui étaient des années effectivement conformes. Alors maintenant, attention, on a des chiffres aussi qui sont étonnants. On a fait des études au niveau mondial. Cette stabilisation de la production, voire des difficultés de production, des diminutions de production, sont constatées un petit peu partout dans le monde, sauf dans deux pays, l'Ukraine et la Chine, des pays qui ont multiplié leur production par 10 sans augmenter le nombre de ruches. Donc là, on a des inquiétudes. Il ne s'agit plus de miel.
Vous avez des doutes, ouais.
On a plus que des doutes, puisque des analyses le confirment.
Mais qu'est-ce qu'ils ont rajouté? Qu'est-ce qu'ils rajoutent,
alors,
sérieusement?
Ils rajoutent des assemblages astucieux de chimistes escrocs, avec des isomaltoses, des différentes familles de sucres, difficilement détectables. Mais aujourd'hui, les outils d'analyse se perfectionnent et on arrive aujourd'hui à détecter des quantités très basses d'édulcorants. Donc, on va vers une qualité du miel progressivement qui va se présenter auprès des consommateurs, car nous mettons en œuvre une batterie d'analyse, une batterie de méthodes pour éviter que ces produits édulcorés soient sur le marché.
Ça m'amène à la question d'Arnaud de Paris sur franceinter.fr et qui nous dit: si on va vers une pénurie, où acheter son miel ailleurs qu'en France pour rester le plus éco-responsable possible?
Alors, je pense qu'on aura quand même du miel français, comme on le disait. Il y a des stocks, heureusement. Il y a des stocks chez les apiculteurs qui ont du métier, qui ont des années derrière eux. Et puis les conditionneurs, qui sont des gens, des professionnels, savent que le miel, ce n'est pas mathématique, comme je le disais tout à l'heure. Donc, ils ont toujours au moins une année d'avance pour pallier à ces problèmes de production. Donc, du miel français, il y en aura dans tous les magasins qui peuvent en proposer sérieusement. Par contre, certaines variétés, suite à plusieurs années successives de mauvaise production, comme par exemple l'acacia, eh bien, va quasiment être disparue des rayons pendant, souhaitons que 2022 nous offre du beau climat et une belle floraison sur l'acacia pour pouvoir régaler à nouveau les consommateurs.
Rassurez les consommateurs qui nous écoutent, certes, il n'y en a pas beaucoup cette année, mais est-ce que la qualité est toujours rigoureusement la même, ou est-ce que des conditions météo comme celles qu'on avait vécu et qu'on vivra probablement dans les années qui viennent aussi, Axel de Courty, est-ce que tout cela fait baisser la qualité du miel? Ou pas du tout?
Alors, non, le risque, c'est quand des apiculteurs peuvent utiliser des alimentations d'appoint. Voilà, donc un bon apiculteur va utiliser ses alimentations d'appoint sans prendre un risque sur la qualité de son miel. Évidemment, si le sirop qu'il utilise se retrouve dans le miel derrière, ça pose un problème. Mais en France, on a quand même des signes de qualité qui sont assez en pointe hein, par rapport à l'Europe, et on a également une filière qui est assez exceptionnelle sur la vente en direct. On a 40% du miel qui est vendu en direct, avec seulement 5 à 7% vendu dans les grandes et moyennes surfaces, avec des baisses dans les grandes et moyennes surfaces qui baissent, sauf justement les miels avec des signes de qualité.
Mais j'entends,
donc il y a aussi.
Mais j'entends que vous avez des contraintes, Axel de Courty. Est-ce que tous les pays européens ont les mêmes contraintes pour que effectivement le miel soit du miel toujours et que personne ne triche avec la marchandise?
Alors il y a des analyses qui sont faites. Franck Alétru en parlait.
Mais on a tous les mêmes contraintes.
Il y a un projet de normalisation qui est en cours et ça bataille dure pour la normalisation, pour éviter effectivement, comme Franck Alétru disait, qu'il y ait des miels qui ne sont pas des miels qui arrivent sur le marché européen. Donc une normalisation au niveau mondial qui est en cours pour justement qu'on ait les mêmes règles.
Un Philippe numéro 2 qui veut nous parler des frelons asiatiques. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
On vous écoute.
J'ai deux questions. Quel est l'impact du frelon asiatique sur la production du miel cette année? Et la deuxième question, est-ce qu'il est possible d'envisager une campagne de destruction des frelons asiatiques?
Allez, la question est pour vous deux, Franck Alétru, pour commencer. Moi, j'avais cru lire qu'il y avait eu moins de frelons asiatiques cette année, c'est vrai ou pas?
Oui, tout à fait. Alors, le frelon asiatique a été, dans son développement, extrêmement touché par le printemps pluvieux et froid, les gelées. Donc, cette année, il y en a beaucoup moins. Beaucoup moins, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout. Il y a des micro-secteurs, des territoires sur lesquels il y a eu une forte pression malgré tout. Donc ça, c'est la première chose, première réponse. Deuxième question, y a-t-il une campagne de destruction? Oui, ça existe, c'est organisé parfois par des collectivités territoriales, par des groupements de défense sanitaire, différentes structures de protection de l'environnement, car on sait qu'un nid de frelons asiatiques consomme à peu près 20 000 insectes en une année, donc vous imaginez les dégâts que cela fait. Et aujourd'hui, on a un piégeage, une campagne de piégeage qui a été lancée au niveau national dès le début du mois de janvier par notre syndicat, et ce qui a donné lieu à la pose de 40 000 pièges répartis sur le territoire, un piège qui est parmi les plus sélectifs, on peut toujours faire mieux, mais qui est très sélectif pour éviter de piéger des insectes non cibles, et tout le monde peut participer, tous les citoyens, il y a un mode d'emploi, il suffit pas d'être apiculteur. Il y a un mode d'emploi qui est très clair, qui est très précis, avec un appât précis pour pouvoir utiliser et mais piéger de façon nationale sur tout le territoire. Oh oui. Et il y a une quinzaine de jours, à l'Assemblée nationale, a été votée une résolution, ce n'est qu'une résolution, comme quoi 2022 serait l'année de la sauvegarde de l'abeille, donc un vote qui a été fait à l'unanimité, ce qui est assez rare à l'Assemblée nationale, et qui avait aussi dans un de ses volets l'organisation et la prise en charge par l'État de la destruction des nids. Voilà, c'est très précis dans les termes. Les choses évoluent, et puis là on a un nouveau frelon qui vient d'être détecté à Marseille, qui est encore plus dangereux. Souhaitons que on intervienne au niveau de l'État et très très vite, et qu'on ne laisse pas pendant des années l'animal se développer, envahir, parce qu'on aurait les mêmes problèmes qu'on a eu avec le frelon asiatique, faute d'avoir agi en temps et en heure.
Retour aux pesticides sur franceinter.fr avec beaucoup de questions. Est-ce que les pesticides modifient la qualité du miel, vous demande-t-on? Est-ce qu'on a pu déjà faire ce constat? Question pour vous, Axel de Courty.
On a, à l'Institut de la Veille, on a un observatoire national des résidus, donc c'est vrai qu'on a beaucoup de données qui documentent la contamination de l'abeille et de son environnement par les pesticides. On retrouve surtout des pesticides plus dans le pollen ou dans le nectar ou dans les abeilles que dans le miel. Après, on peut aussi effectivement avoir parfois des soucis sur le miel, mais voilà, mais on est surtout sur des échantillons de pollen et d'abeilles et de nectar qui sont contaminés, souvent avec des cocktails de résidus de pesticides. C'est une co-exposition assez en continu, de façon prolongée, et c'est ça qui pose souci, évidemment, sur la survie et sur le comportement des abeilles.
Lionel nous dit, Franck Alétru sur franceinter.fr, que les néonicotinoïdes notamment les rendent folles. Est-ce que c'est le terme que vous employeriez? Est-ce que c'est bien l'effet?
Bon, c'est une petite caricature, c'est-à-dire que c'est le système nerveux, c'est un neurotoxique, c'est le système nerveux qui est atteint, et différentes fonctions essentielles au niveau de l'abeille sont perturbées, notamment là, il y a un dysfonctionnement au niveau des mouvements à l'air qui peut être constaté, c'est-à-dire que le côté droit bat plus vite que le côté gauche, par exemple, donc l'abeille ne peut plus voler de façon homogène et avec une direction précise. La deuxième chose, c'est qu'au niveau de son GPS, de son système de l'orientation, il est effectivement affecté. Donc les abeilles étaient contaminées au moment de l'alimentation par ce pesticide, la consommation par ce pesticide, et en très peu de temps, eh bien, les abeilles ne revenaient plus à la ruche et les populations se fondaient comme la neige au soleil, et la colonie pouvait en finir par mourir faute de réserves et d'abeilles suffisantes en nombre.
Il nous reste un peu plus d'une minute dans ce téléphone sonne. Je voudrais qu'on termine avec Philippe, le troisième Philippe du soir. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Philippe. Allô.
Voilà, on vous entend Philippe. Récupérez votre téléphone.
Oui, bonsoir. Voilà. Donc moi, la question que j'avais, c'était, est-ce que vous auriez des conseils à destination des consommateurs pour qu'on fasse un achat, en fait, qu'on puisse avoir la garantie d'acheter un miel français et de bonne qualité. Par exemple, je pensais au marché, des fois. On sait que sur les marchés, il peut y avoir des contrefaçons, des choses un peu douteuses. Voilà. Est-ce que vous aurez des conseils à destination des consommateurs pour soutenir la filière française?
Eh bien, la question est rapidement posée. Elle sera vite répondue aussi. Franck Alétru, qu'est-ce qu'on peut répondre à notre ami auditeur?
Eh bien, il faut acheter effectivement des produits issus des apiculteurs français. Nous avons en Europe la réglementation la plus sévère. Nous avons des services de la répression des fraudes qui se sont focalisés, entre autres, sur ce produit qui était extrêmement attirant pour les fraudeurs. Donc, il y a un gros travail qui est fait. Aujourd'hui, les miels frauduleux deviennent de plus en plus rares. Et cette réglementation que nous avons en France, c'est une directive européenne, hein, faut pas l'oublier. Il n'y a pas que nous, hein, mais on a aussi le Codex Alimentarius. Il y a des définitions très précises sur lesquelles on peut s'appuyer. Et les consommateurs doivent se tourner vers les miels français conditionnés en France. C'est ça qui est très important. Il y a des miels conditionnés en France qui peuvent venir d'Espagne de très bonne qualité aussi. Il faut savoir qu'on a une réglementation et des services de contrôle, et nous-mêmes dans la filière, nous entamons actuellement, je dirais, de l'autocontrôle.
Eh bien, très bien, lisez bien les étiquettes. Merci beaucoup, merci vraiment à tous les deux, merci à tous pour vos nombreuses questions. Portez-vous bien.